De nouveau, bonsoir Marie-Josée Malice.
Bonsoir.
Depuis le début de la nuit, nous avons entendu une émission consacrée à Klaus-Michael Gruber, Pierre-Jean Jouve parlait de Hölderlin, Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, et à l'instant, Tadeusz Kantor. Nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Marie-Josée Malice, vous êtes depuis maintenant plus de 3 ans à la direction du théâtre de la commune d'Aubervilliers. Vous dites qu'il existe peu de lieux comme la commune, dont vous parlez comme d'un théâtre idée.
Oui. Parce que d'abord, en effet, ça a été le premier théâtre, le premier CDN de banlieue, donc qui correspondait déjà à une idée qui était la banlieue vaut bien un équipement national. Donc la banlieue disait nous faisons partie du territoire de la République et nous méritons du coup les équipements que vous consacrez à la capitale et aux capitales de région. Donc c'était quand même une idée comme ça, tout à fait... qui a l'air évidente, mais qui était l'apparition, comme ça, d'un monde qui demandait à être vu et perçu à l'égal des autres. Ensuite, évidemment, cette idée a influencé toute l'histoire du théâtre de la commune, qui a été toujours considérée un petit peu comme le temple du théâtre populaire, en fait. En même temps, on sait que, et ça c'est l'histoire de la décentralisation culturelle, on sait que c'est un horizon, c'est-à-dire c'est ce qui fait travailler les gens, vouloir être le temple du théâtre populaire, vouloir être le lieu public théâtral de tous, et en même temps on sait à quel point c'est difficile dans des lieux comme Aubervilliers où la pauvreté règne. Du coup c'est aussi un théâtre idée parce que il doit toujours être un peu à la hauteur de ses déclarations, il doit toujours s'efforcer de pas être trop, mensonger en fait. Et c'est un peu mon travail, quoi. C'est-à-dire, c'est ma condition. C'est-à-dire que moi aussi, je parle fort. Je dis que ce théâtre, doit être le théâtre pour tous, qu'il doit être le théâtre où se pense la destinée d'un théâtre en terre de pauvreté. Et en même temps, tous les jours, j'ai un semi-démenti de cette vérité, parce que tous les jours, je vois bien que dans la salle, les gens qui composent le public ne sont pas encore et loin de là les gens d'Aubervilliers. Oui, c'est des Parisiens, des Alberti-Villariens, mais qui sont déjà prédisposés à aller au théâtre. Et en même temps, tous les jours, je remporte des victoires grandes. Parce que malgré tout, tous les jours, le travail qu'on fait, etc., permet une vraie hospitalité. Et je crois qu'on est en train, je crois, d'être assez réputé pour ça, parce que les artistes qui viennent disent que les salles à Aubervilliers sont pas du tout pareilles que dans d'autres théâtres à Paris, qu'il y a réellement là un mélange des publics. Et a fortiori avec l'école que j'ai créée au théâtre qui s'appelle l'école des actes, qui est une école consacrée aux migrants et aux jeunes déscolarisés. Alors là, c'est vrai que sont entrés dans le théâtre des corps, des gens qui n'y étaient jamais, quoi. Ça, je peux dire que... Et ça, c'est vrai que ça bouleverse une salle, en fait. Ça bouleverse une salle, ça bouleverse même le rituel du théâtre, en fait.
Que peut-être aujourd'hui, ce pour tous du théâtre dont vous parlez, et que voulez-vous dire en désignant le théâtre comme seul lieu public constituant qu'il nous reste ?
Oui. En fait, je pars de cette idée du lieu public constituant. Il n'y en a pas de lieu public constituant au sens où il n'y a plus d'espace de la politique où les habitants de ce pays pourraient se réunir pour discuter des destinées du pays. On ne peut pas dire que l'Assemblée nationale soit le lieu constituant, le lieu public constituant, je ne crois pas. Les mairies non plus ne le sont pas. Les lieux de l'université, les lieux de la connaissance sont quand même des lieux fermés. Quoi qu'on en dise, même s'il y a quelques universités encore qui essaient d'être ouvertes, mais quoi qu'on en dise, donc finalement, quand on regarde quels sont les lieux publics qui nous restent, il n'y en a pas. À part, peut-être, en effet, un théâtre, si on décide, parce que au théâtre, bon, les artistes sont très farouchement, tiennent farouchement à leur liberté. Donc moi, par exemple, je fais ce que je veux dans mon théâtre. J'estime que c'est mon travail de faire ce que je veux, d'imposer ma propre règle à la société. Et du coup, je peux décider en effet que ce théâtre peut devenir l'endroit où j'héberge des migrants, où j'organise des assemblées publiques pour discuter de questions très sérieuses. Et ça correspond à un besoin qui a été exprimé par la population. Donc les gens sont là, ils viennent aux réunions. Pendant la première année de ma direction, j'avais créé un groupe de travail avec les spectateurs, des artistes et puis des gens de la population. Et ce groupe de travail, qui était un groupe politique en fait, hein, qui était réellement, dont l'enjeu était que doit devenir un théâtre public aujourd'hui. Ce groupe se réunissait toutes les semaines, c'était incroyable, il y avait 80 personnes qui venaient tous les dimanches après-midi à la commune pour discuter de cette question, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre public aujourd'hui ? Et ça pendant un an. Donc c'est bien le signe que les gens ont besoin de lieux constituants. Et c'est comme ça que je dirais que c'est un théâtre pour tous, c'est-à-dire c'est un théâtre qui prononce le fait que la question du pour tous doit être retravaillée et qu'il faut des lieux pour ça, c'est très simple quoi. Voilà. Donnons-nous des lieux où on puisse discuter ensemble.
Le théâtre de la commune peut-il être l'un des lieux d'une renaissance politique, de cette subjectivité collective chère à Alain Badiou, capable de répondre au désir de transformation sociale ?
Oui, parce que la prémisse c'est qu'en effet il nous faut une nouvelle subjectivité. Il faut que nous soyons capables de désirer le monde autrement. La subjectivité c'est ça, c'est-à-dire il faut que ce qui nous motive, ce qui nous meut, ce qui nous conduit comme individu, soit désormais petit à petit autre chose que ce qui nous a mu ou motivé jusqu'à présent. Le désir de possession, le désir de pouvoir, a constitué une subjectivité. Il faut y opposer une nouvelle subjectivité. Or, c'est très dur. C'est très dur de demander à l'humanité de se mettre à aimer ce qui la fragilise. Aimer perdre, aimer se déposséder, aimer être fragile plutôt que puissant, c'est très difficile, on le voit bien. Donc c'est pourquoi il faut en effet des outils qui le permettent, des instruments qui nous permettent petit à petit de nous convertir subjectivement, qui nous fassent sentir que ce qui nous fait peur, par exemple se perdre soi-même, ce qui nous fait peur, pourrait être au contraire l'enjeu d'un nouveau plaisir, d'un nouveau bonheur. La rencontre avec l'étranger, avec l'inconnu qui nous fait peur, pourrait être l'enjeu d'une nouvelle grande joie. Et ça, il faut qu'on puisse le sentir, il faut qu'on puisse l'éprouver. Il faut qu'à la place de la peur qu'on éprouve, on éprouve la joie qui viendrait. L'art sert à ça. L'art sert à nous proposer de nouvelles visions, de nouvelles sensations, où on se dit que finalement, ah, j'ai traversé ma peur, j'ai traversé mon angoisse, et je découvre que finalement, cette chose-là que je redoutais me libère. Donc l'art sert à ça. Et c'est pourquoi un théâtre particulièrement est un outil très important de construction de cette nouvelle subjectivité. Et aussi parce qu'en effet, le théâtre, comme il est physiquement le lieu possible d'assemblée populaire, le théâtre est aussi le lieu où on va pouvoir discuter, sentir les œuvres et discuter. Et donc petit à petit, se donner de nouvelles hypothèses, apprendre à nommer le monde autrement, discuter entre nous des problèmes. Donc comme toutes les civilisations qui commencent, on a besoin de symboles, on a besoin de nouveaux symboles, et on a besoin de grandes discussions, de grandes assemblées délibératives où on décide entre nous, et c'est un grand travail de ce qu'il nous faut, voilà. Et le théâtre, à cet égard, c'est un lieu génial, parce que ça réunit les deux, en fait.
Depuis quelques jours, on peut voir votre mise en scène de Don Juan au Théâtre de la Commune. En quoi monter le Don Juan de Molière est pour vous une décision étrange et bouleversante ?
Ah oui, d'abord bouleversante parce que pour tous les gens de théâtre quand même, monter Molière c'est revenir à la maison et redevenir un enfant ébloui. On a tous une énorme piété pour Molière, c'est grand, c'est merveilleux, ça fait rire, c'est génial. Toutes les secondes on se dit mais non mais quand même quoi, c'est comme si je sais pas quoi, on partait en voyage avec Charlot quoi. et c'est merveilleux, c'est voilà, il y a ça. Et en même temps, évidemment, c'est étrange parce que on croit toujours que l'urgence des problèmes, Dieu sait qu'il y en a, on sort dans la rue, on voit l'énormité des problèmes, on croit toujours qu'elle devrait nous inciter à monter autre chose que des classiques. On croit toujours que les classiques, c'est ce qu'on devrait faire en temps de paix, mais quand c'est le chaos, il y a urgence à monter des choses contemporaines. Moi-même, j'ai eu ce réflexe. Du coup, il m'a fallu, oui, un étrange détour avant de me dire, mais non, mais finalement, Molière. Quoi de neuf, Molière, disait Diderot, je crois. Et ce qui est génial dans cette pièce, c'est que, en fait, elle est une déclaration totalement scandaleuse et subversive sur le fait, en effet, que nous n'aimons pas assez la terre et les autres, et nous préférons nos idées à la réalité. Et donc, du coup, quand on la monte comme ça avec une hypothèse, pareil, on comprend quelque chose qui est bouleversant, bien fait. On comprend pourquoi Molière a été menacé de mort quand il l'a écrite. On comprend qu'est-ce qu'il est, la puissance subversive de l'acte qui a consisté à écrire Don Juan et qui a consisté à dire il vaut mieux aimer l'humanité plutôt que Dieu. C'est une déclaration incroyable et qui évidemment chez Don Juan se décline par l'amour sensuel des femmes, des beautés terrestres, etc. Mais la déclaration c'est celle-là. Arrêtons d'aimer nos imaginations plus fort que les êtres vivants eux-mêmes en fait.
Marie-Josée Malice, vous avez souhaité ouvrir cette deuxième partie de la nuit avec Les immigrations des Espagnols, une des émissions d'une série sur l'histoire de l'immigration proposée par Emmanuel Hirsch dans le cabinet des curiosités en 1998. Vous êtes vous-même une enfant de l'immigration espagnole, une immigration qui a connu plusieurs vagues successives. De quel temps de cette immigration êtes-vous issue ?
De deux temps. Le premier temps, celui des années 20, où la population misérable d'Andalousie venait en France travailler dans les mines. Et donc, j'ai un arrière-grand-père qui est andalou, du côté de mon père, qui a suivi cette vague-là, la vague de la faim, quoi, de la misère. Et puis, le deuxième temps, qui est celui de la guerre civile, en fait, espagnole, où, du côté de ma mère, en fait, où, en effet, la guerre civile a bouleversé les existences, a jeté les gens qui étaient hostiles au régime franquiste sur les routes, en fait. Et voilà, donc je fais partie aussi de la génération des enfants, des immigrés de la retirade, ce qu'on appelait la retirade, donc des opposants au franquisme, ou des gens dont la vie a été comme ça complètement percutée par la guerre civile.
Vous avez grandi près de Perpignan, en Catalogne française. Que vous reste-t-il de l'Espagne ?
De l'Espagne, pas grand-chose, parce que il me reste en fait la douleur de mon grand-père maternel, qui était convaincu toute sa vie qu'il retournerait vivre en Espagne, et qui s'est rendu compte à la fin de sa vie que ce ne serait pas le cas, parce que ses enfants étaient installés en France, et que pour eux, l'Espagne était devenue une chose quand même assez abstraite. Il me reste ma grand-mère maternelle aussi qui ne parlait pas le français parce que quand elle avait essayé de le parler en France, on se moquait trop d'elle et par orgueil, elle avait décidé de ne pas apprendre cette langue. Il me reste au fond le sentiment d'avoir fait partie, de faire partie d'une famille dont on peut dire qu'elle fait partie, elle fait partie de ces familles des humiliés, des offensés, des pauvres gens. Voilà. Et après, de l'Espagne, il me reste quand même la trace, comme ça, légendée, sans doute, hein, d'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, en fait, d'une douleur historique très intense de cette guerre civile où finalement une république, un rêve de peuple a été confisqué aux gens, et non seulement confisqué, mais abattu dans le sang, quoi. Sans doute l'équivalent de la Commune de Paris.
Est-ce que vous devez à votre histoire familiale d'être attentive à la réalité présente des migrations, à la vie réelle, concrète des personnes exilées ?
À vrai dire, pas directement, parce que mes parents ne m'ont jamais fait sentir... quand on était petits, on n'avait pas du tout le sentiment d'être des enfants d'immigrés. Hein. C'était des années... J'ai eu la chance, moi, d'être jeune dans des années de prospérité. Et donc, on était de plein pied dans la vie du village. On était... Voilà, on se posait absolument pas la question de notre origine, en fait. Et donc, il faut rendre grâce aussi... au pays qui avait permis qu'on se sente de plein pied comme des habitants de ce pays sans avoir à se poser la question hein, de savoir qu'est-ce qu'on faisait là. Ce que je crois que je dois à mes parents, c'est plutôt qu'ils ont été des gens d'une extraordinaire intelligence et totalement confiants dans la capacité qu'avaient leurs enfants, mon frère et moi, à mener leur vie selon leurs désirs. C'était des pauvres gens, sans éducation. Ma mère écrit le français, le lit, mais ça a été, je sais pas, voilà, c'est pas facile pour elle. Mais c'était des gens donc comme ça, très très pauvres, mais qui avaient une totale confiance dans la capacité humaine en fait. Et donc je crois qu'ils ont fait de moi quelqu'un qui avait qui a une grande force. Parce que je me suis toujours sentie en confiance. Je me suis toujours sentie encouragée à être ce que je suis. Et du coup, quand on se sent fort, on peut être généreux, je pense. Je pense que quand on se sent fort, ben, du coup, on a de la force pour les autres. On est disponible à ce qui vient. Or, ce qui vient aujourd'hui et qui demande à être vu, c'est quand même, en effet, la migration, en fait. Donc, c'est comme ça que j'explique mon intérêt pour elle. Pas parce que je m'identifie en tant qu'immigrée, mais parce que ce qui demande à être traité aujourd'hui, c'est quand même le sort des migrants, en fait.
Marie-Josée Malice, vous avez choisi de mettre au programme un documentaire de 2011 de Stéphane Bonnefoy et Viviane Noël, intitulé « À la source de la Fontaine-Roy, un foyer de travailleurs maliens à la veille de sa fermeture ». L'afflux de population en France et plus largement en Europe, c'est l'une des grandes questions de notre époque, peut-être la grande question politique à laquelle nous sommes et serons confrontés à l'avenir. Face à une situation politique comme celle-là, quel peut être, quel doit être le rôle, la réponse des artistes, d'une femme de théâtre telle que vous, directrice d'un centre dramatique national?
En fait, on ne peut pas faire de théâtre si on n'a pas des idées... précise sur la réalité. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Donc, la réalité aujourd'hui, elle est interrogée par la présence des étrangers chez nous et surtout par la réponse indécente, en fait, totalement insuffisante, qui apporte l'État. Donc, je me suis rendu compte que si à Aubervilliers, je ne faisais pas enquête et hospitalité aux étrangers, et si je ne décrétais pas que c'était une question essentielle, urgente pour le théâtre, je ne serais pas capable, au fond, de continuer à être une artiste à Aubervilliers. Je ne vois pas très bien comment je pouvais continuer à me dire que ma mission est de représenter la réalité quand la réalité dans la rue était celle-là et que je ne la traitais pas. Donc on a décidé du coup de créer, comme je vous le disais, une école. Cette école, c'était pas une école paternaliste qui consistait à dire « nous allons enseigner aux étrangers le français ou nos idées sur la France ». Cette école, c'était une école pour nous tous, nous les artistes, les intellectuels et pour les étrangers présents, qui était une école où il s'agissait de savoir qu'est-ce que nous avons à nous dire et quelles sont les connaissances nouvelles que nous avons à inventer ensemble. Nous, les gens présents ici, vous qui arrivez, cette rencontre a lieu, et donc elle doit produire de la connaissance nouvelle. Elle doit nous aider à mieux, à vivre dans un monde qui est nouveau, puisque vous y êtes. Et donc, dans cette école, on travaille ces grandes questions selon la logique de la psychothérapie institutionnelle, vous savez, qui dit que, en fait, ce qu'il faudra résoudre pour les étrangers, les grandes questions qu'ils nous adressent en arrivant ici, ce qu'il faudra résoudre pour eux sera bon pour le pays entier. Ça, c'est la grande idée de la psychothérapie institutionnelle qui disait, au fond, ce qu'il faut résoudre pour les fous sera une chose bonne pour nous tous, même les gens qui ne sont pas fous. Et donc, c'est vrai que les étrangers nous posent des questions essentielles, nous disent, mais finalement, où en êtes-vous de l'architecture pour les pauvres et pour héberger les gens qui n'ont pas de moyens? Que je sois étranger ou pas, dans ce pays, il y a un grand problème sur la question du logement des pauvres. Donc, les solutions que nous allons devoir inventer pour héberger les étrangers devraient être des solutions aussi bonnes pour tous les Français pauvres de ce pays. Il nous pose des questions aussi, évidemment, sur notre conception de l'hospitalité, de qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est que sa capacité d'accueil dans la loi. Donc, il va falloir réparer ça, et ce sera bon pour tout le monde, je crois. Et puis, il nous pose des grandes questions fondamentales sur qu'est-ce que c'est que le travail, où en est-on ici, de notre capacité à donner un sens à la vie humaine par le travail. La plupart des ouvriers, des étrangers, vous savez, travaillent. Ils sont sans papier, mais ils travaillent. Et donc, ils posent des questions fondamentales là-dessus. Ils disent, mais au fond, vous avez une vision bizarre du travail. Vous appelez travail au noir le travail que j'ai trouvé et qui existe, hein, et dont vous niez la réalité. Il faudrait peut-être lui donner un statut à ce travail, un statut autre que celui que vous lui donnez, etc. etc. Donc, dans notre école, les étrangers sont là pour nous adresser les questions essentielles qui permettent que nous ayons une vision plus riche de notre pays. Mais ça a toujours été la fonction de l'étranger. Vous savez, le théâtre, Œdipe à Colonne, c'est une pièce qui pose comme hypothèse, chez Sophocle, que c'est l'étranger, c'est un étranger, Œdipe, qui va être au fondement de la démocratie athénienne. L'étranger, c'est toujours celui qui permet à un pays de se comprendre. Donc, la place que moi je veux lui donner dans mon théâtre, en fait.
À l'origine des récentes grandes vagues migratoires venues de Syrie et d'Irak, il y a très certainement ce qu'a été le début de la déstabilisation de cette région, avec la première guerre du Golfe et ses prolongements. Vous avez souhaité entendre Jean-Pierre Chevènement. Nous l'écoutons maintenant exposer les raisons de sa démission du poste de ministre de la Défense au moment de la première guerre du Golfe, en 1991.
Ces raisons sont au nombre de trois. La première était la disproportion évidente de ce qui se préparait. S'il s'était agi d'obtenir l'évacuation du Koweït, l'embargo y aurait suffi. Et non pas une guerre aérienne qui, prévue pour durer 15 jours, en a duré 40, et qui a abouti à la destruction de l'Irak, ce qui était le véritable but. Deuxièmement, j'ai compris instinctivement dès le départ la gravité d'une action qui allait, en écrasant un régime symbolique du nationalisme laïque, ne laisser ouverte au peuple du monde arabo-islamique que la seule issue de l'intégrisme islamique, c'est-à-dire du fanatisme religieux. Ça m'a paru très grave. Et puis, en troisième lieu, les intérêts de la France, qui, pour des raisons géographiques de proximité, qui, pour des raisons historiques aussi, est liée au monde arabe. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup d'estime pour le général Schmitt, qui s'est toujours acquitté en professionnel des missions qui lui ont été confiées par l'autorité politique. Naturellement, je n'ai pas tenu le général Schmitt au courant des discussions que j'avais avec le président de la République, mais jamais aucun des moyens qu'il a réclamés ne lui a été marchandé. Je pense qu'il peut en témoigner. Et la manœuvre qui a été exécutée par la division d'Aguel a été conformément au plan qu'il avait lui-même élaboré. En ce qui me concerne, j'ai toujours distingué la responsabilité militaire, d'une part, et la responsabilité politique, qui est d'un autre ordre, qui est une responsabilité devant le peuple et devant sa conscience. Et c'est de cette responsabilité-là que je me suis acquitté.
Nous venons d'entendre Jean-Pierre Chevènement au micro de Rebecca de Nantes dans l'émission de Patrice Gélinet « Les jours du siècle » en 1996 sur France Inter. Que vous inspirent les paroles de Jean-Pierre Chevènement, Marie-Josée Malice ?
Bon, évidemment, c'est toujours, enfin, c'est très remarquable d'entendre ça, puisque c'est comme si, enfin, il avait été en capacité réellement d'anticiper, voilà, la gravité des questions dans lesquelles nous sommes maintenant. Mais ce que ça m'inspire aussi, c'est finalement que Chevènement est sans doute le représentant de ce qu'il y a de meilleur dans la politique. De gouvernement, enfin dans la politique telle qu'on l'entend, politique des partis, mais la politique pratiquée au sein de l'État. Un homme, en effet, qui est capable de démissionner pour suivre ses convictions, qui exerce à plein régime sa lucidité. Et je voulais qu'on entende de Chevènement parce que ces derniers temps, je me disais que, en effet, voilà le fil d'un homme, le fil de la vie d'un homme qu'on pourrait suivre à rebours, et on s'apercevrait qu'il a été au carrefour de toutes les grandes décisions que le pays devait prendre et dans lesquelles nous sommes encore, dont nous portons les conséquences. Ce qu'il a été au carrefour de la question de la désindustrialisation. Au moment de Maastricht, il avait posé la question de l'Europe qu'il nous fallait. On s'aperçoit que pour la guerre du Golfe, il pose en effet les questions essentielles. Et c'est quand même voilà remarquable de songer qu'il y a quelques destinées, elles sont très très rares, hein, politiques, qui sont réellement comme symptomatiques de ce que une génération d'hommes a affronté comme grande question de la politique. Et donc moi j'ai pas beaucoup d'estime pour la politique partidaire, mais je peux dire que j'ai quand même de l'admiration pour Chevènement. Oui.
Marie-Josée Malice, c'est avec Pierre Auvernet, La mort d'un Mao, que se poursuit votre nuit. Un montage des actualités de France Inter dans les jours et les semaines qui suivirent la mort de Pierre Auvernet le 25 février 1972. Aujourd'hui, ce souvenir de Pierre Auvernet, c'est quoi pour nous tous et pour vous qui n'étiez qu'une enfant en 1972?
C'est un hommage que j'ai voulu rendre aux gens qui sont importants dans ma vie, des intellectuels plus âgés que moi ou des amis proches qui ont connu comme ça la splendeur des années 70, le soleil gauchiste. Et ça, c'était donc une manière pour moi de me rapprocher d'eux, de leur rendre hommage, de dire voilà finalement la... Comme Hölderlin, les gens qui ont connu une vraie période politique intense en restent, comment dire, illuminés à jamais, éblouis à jamais. Ils ont des grandes douleurs à affronter, ils ont la douleur de la perte, hein, la douleur comme ça d'un deuil à faire ensuite quand la politique s'en va durement. Mais souvent, quand ils restent fidèles, ce sont des êtres humains merveilleux. Ils ont vu quelque chose et toute leur existence est d'essayer d'organiser la fidélité en période politique corrompue. Donc je pense évidemment à Alain Badiou, à Judith Balzot qui est une amie, à un autre ami très proche cet ami proche qui me disait que son existence politique à lui avait commencé avec Pierre Auvernet, mais avec la mort de Pierre Auvernet. Mais quand j'ai écouté l'archive. Outre cette question de la fidélité, qui est très importante, parce que après tout, après les années 70, on est entré dans une période réactionnaire où la plupart des gens qui avaient été les acteurs de la gauche des années 68-70 se sont reniés et se sont empressés de se ranger à la nouvelle logique marchande. Donc la question de la fidélité est très importante. Quelques-uns sont restés fidèles, non pas par défaut de lucidité, ils ont été capables de faire le bilan des échecs, mais sont restés fidèles à l'idée que l'égalité devait rester l'horizon politique non négociable. Outre la fidélité, l'archive m'a laissé entendre que finalement, ce qui avait mobilisé la gauche, c'était aussi un grand élan de solidarité avec les immigrés. Parce que on voit que la mort de Pierre Auvernet, c'est la mort donc d'un militant Mao tué par un milicien, un gars de la police privée de l'usine, certainement un ancien fasciste, et à l'occasion de la tentative d'organiser une manifestation en hommage aux morts de la manifestation de la rue de Charonne, en fait. Donc, en hommage aux morts de la guerre d'Algérie, en fait, des victimes de la française de la guerre d'Algérie, en fait, des victimes arabes en France de la guerre d'Algérie. Donc, il y a cette grande solidarité de la gauche avec les étrangers présents en France. Ça m'a beaucoup émue, parce que j'avais oublié que c'était lié à ça, en fait.
Marie-Josée Malice, c'est avec Jacques Lacan que continue votre nuit rêvée. Nous écouterons la quatrième émission d'une série des Chemins de la connaissance que lui consacrait Christine Goémé en 2001, à l'écoute de Jacques Lacan avec Alain Badiou. Pourquoi avoir voulu entendre Lacan ?
Alors c'était une question radiophonique en un sens, puisque c'était la voix de Jacques Lacan, elle est comme, je sais pas, comme si on entendait parler la Pythie ou Tirésias, en fait c'est une voix complètement anormale, qui a des pics, des sautes en fait, donc du coup on a l'impression de presque toucher vocalement ce qu'est la vivacité d'une pensée, comment ça se construit une pensée, par quels assauts énergétiques en fait, se construit une pensée. Donc c'est génial, c'est presque un phénomène de chant, ou je sais pas quoi, d'incantation, donc c'est assez drôle. Et remarquable, comme ça, c'est très poétique, en fait. Et aussi, évidemment, après, à cause de la grandeur intellectuelle de Lacan, qui pour moi est la troisième aide que je convoquerai ce soir, qui est après Hölderlin, Pasolini, à Lacan, tout simplement parce que il y a quand même cette idée géniale chez Lacan, du fait que l'humanité ne se définit pas par son identité, mais qu'elle se définit au contraire par le trou qui est en elle, le manque qui est en elle. Je pense que c'est très important d'entendre ça aujourd'hui, où on voit que tout le monde, comme ça, s'accroche à des noyaux identitaires et prononce qu'en fait, mon identité ne vaut pas ton identité. Dans des philosophies un peu New Age, où on nous invite à redevenir nous-mêmes, à renouer avec notre moi ou authentique ou je ne sais quoi. Et il faut quand même se souvenir, voilà, que dans les années 60 et 70, il y avait Lacan et les grands intellectuels de ce temps, et ça allait avec une espérance communiste, hein, au fond, qui disait... pas communiste au sens de parti, hein, mais une espérance égalitaire, qui disait, mais non, l'humanité ne se définit que par ce qui lui manque et ce qui la met en désir. Et être un homme, c'est avoir le courage de vivre cette aventure de l'existence qui jamais n'est garantie par rien. Jamais il n'y aura un dieu ou un maître, un chef, un papa, qui viendra te dire « voilà qui tu es ». Non, il faut renoncer à ça, il faut renoncer aux figures d'autorité et accepter que, au fond, nous ne nous appartiendrons jamais à nous-mêmes et que nous serons toujours en figure d'absence de nous-mêmes, en train de chercher quelque chose. Mais ça, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique.
Jacques-Alain Miller dit qu'avec Lacan, la parole a été mise au centre de la psychanalyse, que Lacan a révélé la puissance matérielle du langage, qu'il l'a fait avec violence, comme un combat. Vous, pour qui au théâtre le texte a toute l'importance, est-ce à cette même puissance matérielle du langage que vous avez affaire ?
Oui, moi j'ai affaire au théâtre à la puissance de vérité dans le langage. C'est-à-dire, ce que je cherche chez les acteurs et qu'on cherche avec eux, c'est comment, en fait, quand une parole est réellement pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Quand, au fond, quand je dis un énoncé et que je me mets à penser aux conséquences de cet énoncé dans ma vie, pour ma vie, ce que cet énoncé pourrait fabriquer pour ma propre vie et pour la vie des gens que j'aime, et pour la destinée humaine, quand je pense réellement à ça, alors mon langage, ma parole, se teinte, se colore, comme ça, de nuances vocales, affectives, de tremblés, de beauté expressive, que seule la caresse de la vérité, la caresse de la justesse, peut amener au langage, quoi. Et au théâtre, je pense que c'est ça qu'il faut que nous fassions, que nous soyons une humanité en train d'envisager ce que dire quelque chose, penser quelque chose, peut entraîner comme conséquence pour nos vies. Et dans mon théâtre, c'est ça qu'on voit. On voit des acteurs qui disent des choses, qui prennent le temps, du coup, d'envisager ce que cette chose pourrait produire dans leur existence. Et on les voit donc s'émouvoir de ces conséquences. Et à ce moment-là, le public s'identifie à cette émotion, partage avec eux, comme ça, le champ ouvert des conséquences. Le public se met à dire « Ah, mais c'est ça que ça veut dire, alors. C'est ça que ça pourrait permettre pour l'humanité. » Et il y a comme ça une espèce comme ça d'effusion qui prend tout le monde. Mais à partir, vous voyez, d'un travail très sérieux de... Oui, de le travail qui consiste à prendre très au sérieux la parole. Parler engage. Engage pour la vie, en fait.
Marie-Josée Malice, je vous propose d'entendre maintenant une voix, des voix qui nous ramèneront à mai 68, plus précisément au mois de juin 68 et à la fin du mouvement.
Alors, dès qu'elle aura, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre
avec... Non, moi je ne rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je ne mettrai plus les pieds dans cette tombe, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, hein. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec.
Il disait ça il y a trois semaines et plus un jour.
C'est une étape, c'est
ben
pas...
oui.
Hein?
C'est
pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas pire.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra que les travailleurs...
Vous l'avez dit, c'est un fusil bang.
Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais on peut pas tout.
Bon, ben, il faut pas tout avoir d'un seul coup. On peut pas l'avoir tout d'un seul coup. C'est une étape.
Vous pas avec qui c'est
maintenant.
C'est saboté le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui.
Le vote qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant.
Oui, d'accord. Il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain.
Le patron a fait dépouiller le vote.
Nous ont vu
une par centaines. C'est une victoire, tu entends.
Mais il faut quand même voir. Moi, je regarde quand même que le patron, il était
amené. Ils ont reculé.
Le salaire, ils ne voulaient pas en entendre parler.
Il l'augmente de 10%.
Les paiements et récupérations des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qu'ils voulaient vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule.
50% même s'il dit de la valeur des heures perdues.
Hein? Alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a mis.
Ah, mais pourquoi tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer. Hein.
Mais non.
Bah oui, tiens.
Pas tous les travailleurs.
Ça, c'est un problème. Il y en a pas mal.
Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscient de ce qu'ils ont fait. Hein. Et c'est ça qui est conscient
d'ailleurs. C'est pas fini. Comment je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer, c'est pour.
Ils vont être comme ça maintenant, ils représentent.
Nous venons d'entendre un extrait du film Vendeur, mai 68, tourné à l'époque par des étudiants de l'IDEC devant les portes de l'usine Vendeur à Saint-Ouen, alors que les employés sont sur le point de reprendre le travail et qu'une jeune ouvrière, encadrée par deux cégétistes, manifeste haut et fort son désaccord. Pourquoi avoir voulu entendre cette bande-son ?
Ah, ça me bouleverse. Vous entendez la puissance du vrai dans la voix. Alors là, on voit à quel point il y a deux régimes de parole. Il y a le régime de la parole de nécessité, qui est on voit bien que la vérité est entièrement du côté de cette femme, qui dit que c'est insupportable, que c'est dégueulasse.
Et d'un désir qui s'exprime par la négative,
oui,
en fait.
Mais qui dénonce, qui dit il y a de l'insupportable, il y a... Et c'est l'injustice même, en fait. Je veux pas retourner là-dedans. Et en plus, vous avez fait des saloperies. Vous avez confisqué la juste cause, en fait, le juste combat. Et puis on entend la voix des autres, hein, qui essaient de recouvrir, comme ça, c'est une opération de recouvrement abjecte. Hein.
Qui essaient de la faire taire, presque.
Qui essaient de la faire taire, ouais. Qui lui disent, et vous entendez, c'est une victoire, là où elle crie. Elle crie sa détresse, et on voit bien la souffrance qui l'attend, et il lui dit c'est une victoire. Donc, et moi, je trouve que c'est bouleversant, c'est un moment comme ça de haute tension, enfin terrible, et ça me fait toujours penser qu'au fond, en politique comme en art d'ailleurs, bien sûr il y a les ennemis extérieurs, il y a l'adversité, mais je pense que la chose la plus terrible c'est toujours l'adversité interne, intérieure, quoi. Et là, ce qu'on entend, c'est quand même comment du côté des travailleurs, il y a quand même des adversaires qui sont à l'intérieur. Il y a des gens qui sont finalement déjà qui ont épousé la position du pouvoir, qui ont épousé la position de l'ennemi, quoi.
Est-ce qu'on ne peut pas voir là une très bonne illustration des paroles de Lacan ?
Ah oui. Oui, oui, sur... c'est vrai que, quand même, Jacques Alain Milner aussi qui dit ça, qu'en fait, quand même, la question de qui parle et qui a le pouvoir de la parole est une question majeure, nodale, et question par où s'illustre vraiment la souffrance de l'injustice. Et c'est vrai que là, on entend les discours du maître et comment le discours du maître est relayé, etc. C'est terrible, en fait. Et
puis des personnes qui ne parlent pas le même langage, au fond.
Pas du tout, ouais, pas du tout. C'est pas du tout. Mais cette femme, elle est, pour moi, elle est fichée comme ça dans ma mémoire. Elle reste comme une balise de ce que, en effet, Pasolini appelle le sacré, c'est-à-dire ce que la dignité, l'intangible des gens, ce qu'on ne doit pas détruire des gens, ce à quoi on ne doit pas faire offense, en fait.
Rivette disait de ce film qu'il était le seul intéressant sur mai 68 parce que, selon lui, c'était un moment où la réalité, en 10 minutes d'une folle intensité, condensait toute une situation politique.
Et oui, on comprend que on comprend qu'en effet, ce qui s'est joué là, la reprise du travail, comment finalement un mouvement très puissant qui pouvait être une révolution culturelle, pardon, je ne parle pas de Mao là, mais je parle de ce dont je parle depuis toute cette nuit, à savoir comment nous devons nous donner un nouveau régime de désir, de nouveaux symboles. 68 pouvait être ça, pouvait être la proposition d'un nouvel imaginaire. Mais vraiment une nouvelle imagination pour la vie elle-même. Comment aimer autrement son conjoint, ses enfants, comment organiser le travail autrement. Comment tout ça s'est résolu dans des accords de Grenelle qui sont quand même, bon, certes une toute petite avancée, mais qui ne sont absolument pas homogènes à la portée du mouvement. Et on sait aussi, en effet, les grands débats qui ont déchiré la gauche, la position de la CGT, la position du Parti communiste face à la jeunesse gauchiste, enfin. Et c'est vrai que c'est tout ça qui est résumé de manière extraordinairement dramatique, en fait, hein, dans cet échange-là.
Lacan et Badiou, mai 68, Godard, Gruber, Cantor, Hölderlin. Marie-Josée Malice, c'est sur une toute autre tonalité que vous avez choisi de terminer votre nuit rêvée avec Fernandelle au micro de Micheline Sandrel en 1956. Fernandelle, on est presque tenté de vous demander, que fait-il ici?
Eh bien, vous l'entendez, il fait que, il faut rire, en fait. Il faut rire, et que pour moi, Fernandelle, quand même, c'est une sorte de génie populaire, c'est l'acteur comique naturel par excellence, quoi. Il y a comme ça une naturalité des grands acteurs comiques, chez qui le désir de jouer, le désir de chanter, le désir, comme ça, de déborder l'existence morne, calculatrice, par une fantaisie continuelle, et là, comme ça, vient, comme un élément naturel. C'était aussi dire une fois de plus qui je suis moi au fond, qui est au fond, moi je suis une intello, mais qui vient de la campagne, en fait, une petite fille d'ouvrier agricole. Je me souviens très bien de la présence de Fernandelle à la télé quand j'étais petite, et c'était la seule autorisation qu'on avait par nos parents de regarder la télé le soir, les jours de semaine. On était autorisé à le faire quand il y avait Fernandelle. Et pour moi, j'ai une gratitude infinie pour les gens qui nous font rire. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est génial de monter Molière, parce que on peut renouer avec ce grand bonheur, cette gratitude qu'on a pour les génies comiques, en fait, qui allègent la vie d'une pensée bien plus haute, en fait, qui est « nous devons vivre ». Nous devons vivre. Nous ne devons pas céder au nihilisme. C'est une tâche morale très importante. Il ne faut surtout pas que nous léguions à nos enfants l'idée du nihilisme, nos dépressions, notre goût de la morbidité. Et pour cette tâche morale, on est aidé par des génies comiques, en fait.
Marie-Josée Malice, nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Le cabinet de curiosité, une histoire de l'immigration, troisième volet, Les immigrations des Espagnols, par Emmanuel Hirsch avec Émile Temim, en 1998. Pierre Auvernet, La mort d'un Mao, un numéro de rétro proposé par Arnaud Laporte en 1992. À l'écoute de Jacques Lacan avec Alain Badiou par Christine Goémé dans Les chemins de la connaissance en 2001. À la source de La Fontaine au Roi, un foyer de travailleurs maliens à la veille de sa fermeture. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Viviane Noël en 2011 pour Sur les docks. Et enfin, une interview de Fernandel au micro de Micheline Sandrel en 1956. Marie-Josée Malice, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.